I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Matt, salut Edouard, je vous laisse le petit message habituel pour tous ces entretiens qui étaient un peu longs et qu'on a coupé en deux pour vous dire que la deuxième partie de ton entretien, Edouard, consacré à ce qui se passe dans la tête d'un footballeur, est terminée. Marc a fini le montage. Du coup, comme thème à aborder dans cet épisode, c'est plutôt le rapport à l'argent, le rapport à la célébrité, le rapport à l'image, le fait aussi que tu as été transfuge de classe. Edouard, et comment tu l'as vécu, mais aussi la petite mort, la retraite. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football, le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchon.
Sauf qu'il est terrible, c'est qu'il y a un narratif qui dit t'es sportif de haut niveau, donc tu dois avoir une tu dois nécessairement avoir une hygiène de vie, et cette hygiène de vie, c'est ça. Tu dois pas sortir, voilà. Je suis désolé, hein. Il y en a qui sortent, j'ai des joueurs, il y en a qui fumaient, ils couraient plus que moi, qui n'ai jamais fumé de ma vie. Elle va expliquer ça. Donc je jouais comme un mec qui fumait 3 paquets par jour, mais alors que j'ai jamais fumé. Et il y avait des mecs à côté de moi
qui fumaient
et qui couraient comme des salopards et qui buvaient comme des salopards.
Mais ben, là on rentre dans ce que tu dis d'ailleurs, c'est-à-dire que tu vois la place de l'individuel dans le sport collectif, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, que ce soit en termes de performance ou en termes de vie perso, et c'est un équilibre à trouver et qu'il faut savoir aujourd'hui, je pense, donner aux footballeurs les outils pour être eux-mêmes au service du collectif, et c'est placer ce curseur qui peut être difficile.
Et au sein d'une même équipe, tu as des postes plus ou moins exposés médiatiquement, tu parlais de stars, mais il y a des postes aussi où un attaquant ou un gardien de but, on voit tout de suite, tu vois, je vais pas te dire qu'un milieu de terrain défensif, tu vois un peu moins, mais quelqu'un qui s'y connaît moins, va moins juger un milieu de terrain défensif sur son travail par rapport au loupé d'un attaquant ou la cagade de Donnarumma qui fait une passe au Monégasque.
Les outils sur le mental, c'est que c'est jusque pour l'instant, c'est juste des mots. On dit, ouais, non, franchement, on travaille ceci, on travaille cela, on a mis en place une cellule de ceci, une cellule de cela. Mais c'est bullshit. Et t'en parlais tout à l'heure. Combien de fois j'ai eu des coachs ? Non, j'ai entendu des causeries de coachs où, les gars, aujourd'hui, on est à 150%. Hein. Enfin, j'ai mis l'accent, mais on est à 150% aujourd'hui. Déjà, ça me perd. Tu vois, je repense toujours une causerie, à des causeries parfois. Enfin, pas des causeries. Didier faisait sa causerie à Marseille. Puis après, sur le terrain, on se réunissait et on refaisait un petit sum-up. Il y avait Gabi qui prenait la parole, Heinze. L'Argentin, lui, c'était pas possible. Moi, son discours, il fallait toujours que j'ai une petite phrase complémentaire. Parce que je me disais, dans l'effectif, s'il y a des mecs qui résonnent comme moi, ça va pas leur parler. Le discours de Gabi, très sud-américain. Les gars, aujourd'hui, il y a la famille, il y a les amis, on joue pour eux, et tatati, et tatata. Ok. Un discours comme ça, moi, je joue pas pour ma famille. Les supporters, très objectif. Ils viennent pas voir Edouard Cissé. Ils viennent voir soit l'attaquant, comme tu as dit, soit le gardien. Ils viennent voir leur équipe s'ils veulent. Mais ils sont pas venus voir exclusivement Edouard Cissé. C'est pas one man show. Donc, moi, je joue pour moi. D'accord ? Ah oui, pour mes potes. Ok ? Donc, ce discours-là, je le laissais finir. Et après, moi, je schématisais. Ok, donc, on joue contre une équipe bloc bas. Donc, ok, les gars, ça va être un petit truc tactique, tu vois. On tente par une frappe, on finit toujours les actions par une frappe. Un truc très rationnel qui ramène, factuel. Point barre. Il n'y a pas d'histoire. J'invoquais pas les dieux. Si on perd, c'est terrible. Non. Si on perd, c'est terrible. Si on perd, on n'a même pas commencé le match. Jouons le match. Si on fait ce qu'on a à faire, on a des fortes chances de gagner. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais on a des fortes chances de gagner. Toujours du rationnel. Et donc, tu vois, ça, c'est deux mecs, pourtant il était bélier comme moi, on était relativement complémentaires, mais aux antipodes.
Mais chacun était motivé par sa manière de le... Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que lui avait besoin de ça.
Lui, il avait besoin de ça, et son discours, c'était ça.
Ouais.
Et je sais qu'en tant qu'entraîneur, quand il motive ses joueurs comme ça. Et je lui dis, jamais j'aurais pu jouer.
Pour toi.
Pour toi. Ouais. Ou alors, tu me connais et tu me parles pas. Ouais. Tu vois. Mais globalement, ce discours-là, c'est pas possible. Jouer pour les supporters, un tel. Ouais, mais avant de jouer pour les supporters, moi, je viens du milieu amateur. Je jouais, il n'y avait aucun supporter. Mmh. Donc, je ne me motive pas à travers les supporters. Ouais. C'est pour ça, quand je suis allé à Monaco, les mecs, ils m'ont dit, putain, tu vas à Monaco, il n'y a personne. M'en fous, je joue pour moi, je suis avec mes potes, ouais. Il y a un adversaire, ouais. Je joue parce que je veux gagner. Ouais. J'attends pas. Et c'est pour ça que parfois, les discours, tu vois, de certains entraîneurs, ils ont l'impression de devoir te donner la force. Mais franchement, si tu dois me donner la force d'aller gagner le match, waouh, le jour du match à 10 minutes, là. Ah non, putain, ça veut dire que t'as pas une équipe de compétiteurs. Et j'ai expliqué.
Tu devais déjà, enfin, quel que soit le discours de l'entraîneur, toi, tu devais déjà être dans cette position-là d'avoir envie de gagner.
Moi, si je dois attendre que le coach me trouve les bons mots pour aller me motiver, pour aller gagner le match, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui n'a pas été. Je suis là, je suis payé pour gagner, je suis payé pour jouer. Bingo, toi, t'es coach, tu m'expliques dans la semaine, selon toi, quelle est la meilleure façon pour qu'on puisse les battre. Et à la mi-temps du match, tu me dis, en ce moment, on n'est pas bien, il faut faire ça, ça, ça. Toi, t'es payé pour ça. Si t'es payé pour motiver, waouh, c'est chaud, quoi. Alors, de temps en temps, tu vois, moi, je trouve que l'entraîneur, c'est ça. C'est donner la ligne de conduite, fédérer toute la semaine, et tout le temps, en fin de compte, fédérer autour de l'objectif, et on y va. T'imagines ? Parce qu'après, ça donne des aberrations pour moi. Les gars, oh, on n'a pas le droit de perdre aujourd'hui. C'est mort. Le mec, il me dit ça, on n'a pas le droit de perdre. Pourquoi on n'a pas le droit ? En face, c'est des bolos. Non, ils sont bons aussi. On a le droit de perdre. Par contre, on ne veut pas perdre. Donc, on va mettre en place des choses comme ça. Et si on les met en place, on a des fortes chances de gagner. Pour en revenir au mental, le mental, je crois que c'est quelque chose qui est personnel et que tu dois arriver à développer. Comment je fonctionne, c'est quoi qui me motive et qu'est-ce qui fait que... Si tu dois attendre chaque fois que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui te motive... Effectivement, parfois, tu es dans un environnement stimulant. OK ? Stimulant, ça veut dire que tu vois des mecs qui taffent sérieusement. Donc, toi, tu as envie d'y aller. Tu le fais. Mais il y a des fois où tu n'as pas envie. Donc, c'est une question de mental. C'est toi qui dois partir.
En parlant de l'extérieur qui te motive, les supporters.
Ouais.
Ça a été quoi, toi, ton rapport à eux pendant ta carrière ? Et quel effet ça a pu avoir, les comportements des supporters sur ton mental à toi?
Écoute, très honnêtement, à partir du moment où très tôt j'ai vu qu'ils ne viendraient pas pour moi, qu'ils ne viennent pas exclusivement pour moi, je ne suis pas la star de l'équipe. Donc, je me dédouanais. Donc, ils viennent voir l'équipe. Donc, effectivement, quand l'équipe, elle n'était pas bonne, les supporters sifflaient, pas de souci. OK ? Il y a des fois, je tourne à Paris, où quand tu te fais siffler toi, c'est que tu n'es pas bon. Je pars du principe que je n'ai jamais pris personnellement. Tu vois ? S'il me sifflait, c'est que j'étais pas bon. Donc, j'essayais de remédier à la situation. Okay ? Puis après, ce qui est pas mal, c'est que quand c'est que toi qui es nul, tu sors et t'es plus sifflé. D'accord ? Mais quand c'est tout le temps, c'est ça. Et moi, ce qui me pose problème de plus en plus, c'est quand les supporters convoquent les joueurs.
Ah ça, on en avait parlé en début de saison, t'avais marqué ça.
On en reparlera dans un prochain podcast.
Ça me pose vraiment problème parce que maintenant, le joueur, il est... Ouais, c'est double sanction, quoi. T'es pas seulement là, ils t'ont sifflé pendant 90 minutes, et là, en plus, tu dois te demander des comptes. Ce qui est contre-productif de la part des supporters. Chacun a des enfants. Ton enfant, il revient avec un 4 en maths. Qu'est-ce que tu fais? Tu le punis, tu vois? Tu fais quoi? Si à chaque fois qu'il a une mauvaise note, tu le punis, tu lui dis, mais t'es une merde et tout ça, t'es nul, attention, la prochaine fois, il faut que t'aies une bonne note, sinon quoi? Tu le menaces. Tu vois, c'est toujours sous condition. Et la condition, pour moi, c'est terrible. Je t'aime, je te supporte si vous gagnez.
Ouais.
Bah pour moi, c'est chiant, mais franchement, c'est problématique.
Et tu penses que, déjà toi, mais les coéquipiers que tu as pu avoir, ils craignaient plus l'avis du supporter ou l'avis du journaliste ?
Ouais, l'avis du supporter, parce que effectivement, quand tu joues dans un stade où les supporters sont derrière toi, ouais, ça te galvanise. A contrario, moi j'ai joué des matchs où je jouais à domicile, mais j'avais l'impression que je jouais à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? Encore quand t'es à l'extérieur, les supporters te sifflent, ça te donne de la force. Tu joues à domicile, tes propres supporters te sifflent. Bah là, tu joues à... Ah, c'est terrible. C'est contre ton camp. Donc, oui, je vais dire, c'est galvanisant. Mais parfois, dans un stade, tu vois si l'ambiance, elle est négative. Tu le sens. Tu sens si elle est négative ou positive. Il y a des fois, tu au parc, devant tes supporters, tu rentres, tu dis, ouf, attends, celui-là, vaut mieux dès le départ que ça fonctionne très bien. Si ça ne fonctionne pas, ça s'envenime. Ça n'aide pas. On est fait d'énergie, donc on sent les énergies dans l'air. Et parfois, il y a une ambiance de folie. Tu dis, mais putain, mais je ne sais pas ce que j'ai. Les jambes, elles sont top, elles sont légères. Je vais faire des actions de ouf. Donc, il y a un vrai poids des supporters. Mais dans le côté, on supporte.
Je te rejoins totalement sur le, pour le coup, je pense qu'il faut avoir été pas mal au stade pour le vivre. Mais le côté, tu vois, tension palpable et tu vois, presque palpable. Quoi. Moi, il y a un match dont je me rappelle en tant que supporter, c'est le match des Minots. Je rentre dans le stade.
On était tous les trois.
Mais attends, je te jure, je rentre dans le stade. Je dis, mais c'est sûr qu'on va pas gagner. Enfin, tu vois, t'as le contexte, une période où Marseille était plus fort, donc là tu dis t'as une victoire assurée. C'était, tu vois, et dès le début du match, tu sens, ouais, aujourd'hui, ça va pas forcément le faire, quoi.
Mais nous, on était sur le terrain. Ouais. À l'échauffement, on sait, parce que tout était mis en place pour que ce soit un match piège. Tu vois.
Il avait été bon, Diouf.
Mais c'est là où Diouf fait un coup psychologique incroyable.
Ouais,
si tu veux, ouais, pour eux, c'est bravo. Ouais. Mais nous, c'était terrible parce qu'il fallait qu'on gagne. Il fallait qu'on gagne 4-5-0.
Ouais. Tu les éclates, ouais.
Sauf que dans le contexte où on était, où tu as une obligation de résultat et d'un certain résultat. Putain, c'est terrible. Et donc, on a fait 0-0.
Non, mais t'as eu des matchs. Moi, je me rappelle aussi à Sochaux, parce que j'étais à Sochaux sur le dernier match. Ouais, franchement, tu vois... Tu rentres dans le truc et tu te dis... t'as une forme d'union sacrée, si tu veux, en disant ce match-là, faut le gagner. Mais ce que tu sens surtout en parcage, c'est que si tu perds, ça va être douloureux, tu vois, pour tout le monde.
Donc ça, c'est une usure. Et tu voulais parler de Stéphane Dalma aussi. J'ai vu que tu avais fait un truc sur Steph ou pas du tout.
Ouais, non, c'était plus, mais on y viendra après, parce que c'est un peu plus sur la petite mort et l'après carrière. Lui a fait une grosse dépression. Mais pour revenir au mental et un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait au début, on parlait de Bourigeaud. Donc toi, ça t'a marqué, ça a été l'épisode où Bourigeaud pleure après match.
Il a les larmes aux yeux, quoi.
Il a les larmes aux yeux. Et du coup, en fait, moi j'ai appris par des supporters de Rennes que c'était lié à un événement personnel, dans sa vie personnelle. Il était faible à ce moment-là. Il lui était arrivé un petit drame dans sa vie personnelle et du coup, c'est pour ça qu'il pleure après coup. Dans quelle mesure la vie perso se projette dans la vie pro quand t'es un joueur de foot plus que un journaliste ou un senior vice-président d'Opta? Dans quelle mesure ça a plus d'impact sur tes performances, sur ton métier, la vie perso et ce qui se passe dans ta vie perso?
Le truc, c'est que t'as beau être footballeur professionnel, tu restes un humain et donc t'as cette peine. Je sais pas, tu t'es pris la tête avec ta femme la veille ou 5 minutes avant le coup d'envoi ton père est à l'hôpital, il se fait opérer, t'as un décès. Il n'y a que le décès où ils acceptent que tu partes pendant 3-4 jours, tu vois ce que je veux dire? Sinon, pour toutes ces choses-là, tu dois jouer, tu dois être bon. Enfin, tu dois jouer. Et les gens ne savent pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais pour répondre plus précisément à ta question, tu parlais de Bourigeaud. Il a eu ce petit problème. Mais ça, t'as creusé. Moi, je suis resté, j'ai vu les images, il avait les larmes aux yeux. Putain, c'est chaud. De suite, j'ai fait un rapprochement. Footballeur, bam bam, pourquoi tu pleures? T'es capitaine, enfin, pourquoi t'es triste? T'es le capitaine. L'image du club, c'est important.
Et pourquoi t'as dit, je comprends, en même temps, t'as dit, je suis un peu déçu au début.
Oui,
pourquoi t'es déçu, du coup, si tu le défends et si on défend le fait que les joueurs ont une santé mentale, qu'ils ont le droit de montrer leur faiblesse? Pourquoi toi, t'étais déçu de vous voir pleurer?
Parce que depuis que j'ai arrêté ma carrière, je me suis radouci. Je me suis adouci. Parce que je suis doux maintenant. Moi, je vois ça, c'est pas possible. J'ai jamais pleuré devant un micro parce que j'ai pas le droit de montrer j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. Je suis capitaine, je dois montrer une image. Tu l'as dit, tu dois montrer une image. l'image de Rennes, c'est quoi? On n'est pas bien en ce moment, mais on va, voilà, on est dans le dur. Mais tu vois, c'est toi. Et il y a une partie de moi, l'ancien joueur et le sportif de haut niveau, qui dit ouais, ça me choque. Mais l'autre partie, je dis mais oui, c'est logique, c'est dur. C'est dur parce qu'il est dans une équipe qui n'y arrive pas, qu'il n'est pas performant, et le public a peut-être dû siffler. Mais rien à voir avec la situation à Lyon. Imagine, je me pose la question, mais si tu avais été à Lyon, ou à Paris, l'époque où j'étais, ou à Marseille, quand ça crie, quand ça scande, mon pote, c'est là où tu te poses la question, est-ce que si mentalement il est vraiment costaud ou pas ?
Tu as déjà eu envie de pleurer à un entraînement ou sur un terrain ou dans un vestiaire, ou est-ce que tu as déjà pleuré toi ?
Moi, je pleure pas, moi.
Mais si, j'ai déjà pleuré, mais pas à cause du foot. Mais vraiment dur. Mais vraiment, c'est pas des dépressions, mais où tu te dis, putain, c'est terrible. Quand tu vas quand des loges et que... Normalement, ça doit être... J'avais toujours pris conscience que ce que je faisais, c'était top quand même. Je fais du foot. Ouais. J'ai la chance. Et quand t'arrives et que t'as une boule au ventre et que t'es pas heureux d'être là, il y a quelque chose qui va pas. Donc oui, je prenais conscience que c'était dur. Mais par contre, moi, j'ai pas pleuré. Parce que je prenais beaucoup de recul et parce que j'étais un des... C'est ce qui a fait ma force d'ailleurs, prendre tellement de recul que parfois j'étais jamais sur le terrain. Mais j'ai pris beaucoup de recul. J'ai des joueurs qui ont joué avec moi, des phénomènes, hein, et qui se sont retrouvés à pleurer dans le vestiaire. Alors pas au vu de tout le monde, mais dans les chiottes avec les yeux rouges, tu vois. Et c'est là où tu te dis, mais est-ce qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Tu pleures après une défaite, tu vois. Mais tu pleures pas comme ça. Parce que c'est la dépression, c'est vraiment la pression, la tension. Et là, c'est là où tu dis, il y a quelque chose qui est malsain. Et tu le vois. Et moi, je sais que le sujet de la dépression, il est plus tabou maintenant. Avant, il était tabou. Mais de mon temps, il y en a plein de joueurs qui ont fait des dépressions. Et qui étaient tristes.
Ouais. Et puis, je pense
c'était dur. Ouais,
au-delà de la dépression, tu vois, moi, je me souviens d'anecdote. Le but, c'est pas de, je ne veux pas citer les mecs parce que ça apporte rien au débat, mais tu vois, surtout à Paris, tu avais des comportements aussi. Parce qu'il y a aussi un degré, je pense, dans la difficulté mentale des joueurs de foot. Tu l'as vécu. C'est pas entre jouer à Auxerre ou jouer à Paris sans manquer de respect à Auxerre, c'est pas du tout le même contexte. Mais t'as des trucs qui s'étaient passés. Enfin, tu vois, je me souviens d'un joueur qui se baladait avec, avec sa copine et son nouveau-né, qui se fait secouer la poussette par un supporter. T'as un joueur qui voulait plus jouer parce que son fils se faisait harceler à l'école. Tous les jours, il disait, ouais, ton père, il est nul, c'est un fils de pute. Enfin, tu vois, c'est même pas de la dépression. C'est-à-dire que c'est des événements isolés qui sont pas acceptables. Et puis derrière, tu vois, il se passe ça le jeudi. Puis, je te dis n'importe quoi, mais samedi, t'es à Gerland, quoi. Il faut que tu sois bon. Ouais. Et ça, t'es pas dans la dépression, c'est dans l'acte isolé, mais comment tu peux l'appréhender? Et si t'as pas le support psychologique dans le club pour, tu vois, t'aider à dealer avec ça, et qu'en plus, t'es en situation de concurrence, ça fait quand même un nombre de layers de pression qui sont pour moi difficilement surmontables.
Et puis surtout, c'est toujours sous condition. C'est-à-dire, tu racontes une anecdote, le samedi, tu es à Gerland, soi-disant, il faut que tu sois bon. Sinon,
ouais. Tu vois, sinon tu sautes ou
sinon tu sautes,
sinon c'est pire pour ton fils parce que tu vois, t'as ça aussi. Donc,
et est-ce que du coup, vivant ce type de situation, d'épisode, j'imagine très bien un joueur ne pas être disponible après, non pas parce qu'il a vécu ça, mais parce que du coup survient une blessure physique. Dans quelle mesure une somatisation a entraîné, ou toi tu as connu, ou tu as connu à côté, dans quelle mesure les blessures qu'on a, même nous, hein, la plupart des blessures qu'on peut avoir de dos, de hernie, de torticolis et tout, sont liées à des problèmes mentaux. Dans quelle mesure toi, dans les blessures que tu as pu avoir de long de ta carrière, tu dirais que y en a beaucoup qui étaient liés à des soucis à côté, des soucis de famille ou des problèmes de somatisation?
Non, moi c'était vraiment des traumas. Mais parfois, c'est vrai, quand j'avais une raideur derrière la cuisse ou quoi que ce soit, parce que tous les organes, tous les parties inférieures ou même supérieures, ils ont une symbolique. Tu regardes père, mère et tout ça, Michel Oudoul. Tu essaies de voir et de comprendre. Mais sinon, moi, les blessures que j'ai eues, c'est toujours des traumas, donc des chocs ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ce que tu dis, beaucoup de sportifs, tu te poses la question, comment ça se fait qu'ils soient autant blessés? Mais ils somatisent, ils sont pas bien. Et en fonction des parties, le genou, c'est la relation. Les chevilles, c'est pareil. Il y a des mecs, tu dis, mais ils sont quoi? Ils sont en papier mâché ou quoi? Il y en a un très célèbre, Johan Gourcuff. Il était tout le temps blessé à Lyon. Tu dis, mais c'est pas possible. Donc là, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors le mec, c'était un moine, très sérieux et tout, mais c'était un contexte qui était particulier. Donc oui, mais ouais, c'est une référence au mental, ouais. Mais non, moi, les blessures que j'ai eues, ouais, c'était des coups. Mais toujours pareil, j'ai pris du recul. Moi, je suis pas une exception. Enfin, je suis quelque part un
ovni. Une exception qui confirme.
Non, mais je suis un ovni parce
un
que.
Un peu, oui.
Mais si j'avais été comme tous les mecs matrixés, bah, je pense que ça aurait été. C'est compliqué. Enfin, je crois. D'ailleurs, j'aurais pas pu aller dans un centre de formation. Bon, ça, c'est clair. C'est clair. Mais oui.
Tu serais pas là. Si t'avais fait un centre de formation, ouais, tu serais peut-être pas là.
Exactement. Peut-être, mais j'aurais échoué. Je pense.
T'as été dégoûté.
Il y a une stat là qui est sortie, c'est 1 pour 1000 là qui est pro là. Je sais pas, sur Instagram, mon fils il m'a envoyé un truc là. Ouais. Donc là, t'as plus de chance. Le mec il dit, t'as plus de chance d'être docteur que joueur professionnel.
Ouais, mais je suis pas sûr.
C'est sûr.
Ouais.
T'imagines?
Je pense que c'est sûr.
T'imagines?
Il y a une autre stat qu'on a lu avant de préparer cette émission qui est de la fiche.
C'est nul les stats.
Ouais. Qui est que 37% des joueurs présenteraient des symptômes d'anxiété, de dépression, contre 15% dans la population globale.
Ouais.
C'est quand même un chiffre un peu effarant, quoi.
Ouais,
qu'il y en ait autant, c'est presque 1 sur 2. Si tu regardes tes collègues de travail, 1 sur 2 serait presque.
Très, très honnêtement, et même si ça a plus de poids quand Edouard le formalise, mais moi, pour l'avoir vécu en tant que pote, tu vois, en tant qu'entourage, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté du truc, quoi. Et ça ressort aujourd'hui, si tu veux, chez des adultes qui ont du recul et qui sont capables de l'expliquer. Mais même dans les plus grands centres, tu vois, j'ai mes potes Quentin Westberg, Kifati et Sébasson qui ont leur podcast Ballon Main Corps, qui est fabuleux. Et tous les gens qui sont intéressés par les footballeurs et ce qui se passe justement dans la tête, je vous conseille d'aller les écouter. Qu'on fait eux, comme Lianef Clairefontaine, la génération 86. Donc c'est, je crois, ne pas me tromper quand je dis que c'est la génération qui a produit le plus de footballeurs sous l'égide de Monsieur Dussault. Tu rajoutes à ça le fait que déjà c'était une génération exceptionnelle. Ils ont eu une exposition à un jeune âge incroyable parce qu'il y a eu ce fameux reportage à la Clairefontaine où on les a suivis, on les a scrutés, si tu veux, alors que c'était des gamins qui étaient au collège.
Et un peu starifiés, finalement.
Complètement starifiés. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde, tu vois, quand je fais la référence entre la bagarre entre Atem Ben Arfa et Abu Dhabi, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde va, et puis ils avaient, je sais plus en quelle année ça a été tourné, mais c'était de jeunes ados. Et vraiment, je vous conseille le podcast parce qu'ils font des blocs en fait d'analyse sur le footballeur. Ils te parlent un petit peu de tout, mais ce qui ressort quand même, et pour les connaître personnellement, c'est que tu vois, je parlais tout à l'heure de gens qui avaient la force et la capacité de caractère pour réussir à à sortir de centre et à derrière être des humains construits et des bons footballeurs. Bah ces trois là qui sont aussi complètement différents, ils avaient ça. Mais pour ces profils-là qui ont su prendre le meilleur et l'appliquer, t'en as plus qui n'ont pas réussi à le faire. Et je pense qu'on ne maîtrise pas à quel point c'est difficile, cette vie-là, je suis un peu en boucle sur le centre maintenant, de vivre loin de tes parents, d'être soumis à tant de pression, d'être soumis à... Et je reviens sur mon sujet de... La force de caractère, c'est forcément la dureté, d'être soumis à une éducation par un tiers qui n'est pas un tiers parental, qui est dans l'autorité constamment, et d'être capable d'y répondre avec ta personnalité. C'est tout ça, c'est un nombre d'ingrédients qui sont, je trouve, trop nombreux pour des adolescents. Et ça fait, tu vois, ça peut faire des super footballeurs, ça peut faire des super mecs, comme c'est le cas pour eux, mais je trouve qu'on rend pas forcément justice à la difficulté de ce process là quand t'es en centre, et surtout quand t'es en plus, qu'est-ce qui était leur cas, dans des centres d'élite, tu vois, Clairefontaine. T'as sorti Anelka, t'as sorti Thierry Henry, tu vois, et bien d'autres. Et donc pour conclure sur ça, et pour essayer de comprendre à quel point ça peut être semé d'embûches, je vous invite aussi à aller écouter ce podcast en complément de notre dossier.
Bien sûr, on ira. Mais tu voulais poser une question, Max ?
Non, je voulais te dire, ouais, mais peut-être que tu voulais ajouter un truc. Mais est-ce que un moyen de savoir ceux qui sont vraiment prêts ou pas ? il n'y a pas vraiment de moyen de savoir, mais mentalement, un footballeur professionnel, est-ce que la différence entre être bon en match et être bon à l'entraînement, c'est pas finalement un bon moyen de voir ceux qui sont vraiment bons, super à l'entraînement, c'est les meilleurs, mais en fait, en match, ils s'écroulent. Parce que finalement, est-ce que c'est pas deux métiers différents d'être bon à l'entraînement et bon en match?
Ouais, on dit souvent il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. L'idéal, c'est d'être les deux. Ouais, mais parce que c'est le mec qui est bon à l'entraînement, c'est qu'il n'y a pas de pression particulière et il se noie sous la pression du match. Le poids, les attentes, les supporters, le poids du résultat et le poids de sa performance. Et donc là, c'est vrai que là, il y a de suite un souci mental. Là, il n'y a même pas à chercher. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, il faut qu'il travaille mentalement. Et la première réponse qu'on dit, mais sois fort mentalement.
C'est l'inverse.
Sois plus costaud dans ta tête.
C'est la définition de la force, c'est quoi, donc, la force mentale?
Mais, une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit. On n'a absolument rien dit.
Il y a beaucoup de mecs qui étaient des cracks à l'entraînement et qui s'écroulent, qu'on n'a jamais vu, ou finalement, ça n'existe pas tellement, on en fait tout un cas. Et puis,
Moi, la chance que j'ai eue, c'est comme j'ai joué dans des grands clubs, l'écrémage, il est déjà fait, quoi. Donc, c'est tous des mecs qui sont bons, enfin, qui sont performants. Enfin, en match, ils sont performants. À l'entraînement, il y en a qui boycottent, ils s'en foutent, mais en match, ils sont bons. Donc, les petits bémols, c'est justement quand les périodes, ça va vraiment pas, pendant 3, 4 matchs ou un mois, les mecs se font siffler. Comment ils peuvent résoudre la situation? Parce que parfois, ils n'ont jamais été critiqués. Parfois, il y a des joueurs qui arrivent à Paris. C'était les tauliers de leur équipe, c'était les stars de leur équipe. Et ils arrivent à Paris, ils se font siffler, critiquer. Et ils n'ont pas compris ça. Et donc là, on leur explique que tu sois bon, c'est logique. Sinon, tu ne serais pas là. Maintenant, on ne demande pas que tu sois bon. On demande d'être efficace. Tu vois la différence entre être bon et efficace, ouais. Tu vois, je fais la même chose qu'avant. Ouais, mais
t'es plus au même endroit.
T'es plus au même endroit, donc on attend ce que tu fasses des passes d'ess. Mm. On attend, tu vois, le procès qu'on fait sur Ousmane Dembélé. Ouais. Le truc, c'est qu'il marque pas assez de buts, mais il a jamais marqué des buts. Donc lui, on l'a pas pris pour faire ça, on l'a pris pour mettre du chaos dans les 30 derniers mètres. Et tu verras que ça va changer. La vie sur lui va changer parce que, effectivement, dans les 30 derniers mètres, ouais, à chaque fois. Ouais, mais il marquera pas 15 buts dans la saison.
T'as un papier qui est sorti sur le fait que c'était l'attaquant qui créait le plus de
danger.
L'étude du CIUS. Ouais.
Tu vois? Et donc, c'est un bordel. Donc, tu dois accepter ça. Mais c'est super intéressant. Moi, je pense qu'il faut un nouveau narratif pour le sportif de haut niveau. On a été baigné par le sportif, par le narratif du sportif américain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Black Mamba Mentality. Ouais, moi, je me levais à 6 heures, je faisais ci, je faisais des... Super Kobe, mais objectivement, bravo. Mais s'il suffisait de travailler dur ou de consacrer sa vie à ce que tu fais, il y aurait beaucoup plus de stars. Ouais, tu vois, c'est pas le cas. Ouais. Donc ces mecs-là, ils étaient excellents. Et en plus, ils travaillaient. Bravo! Et ils étaient... Oui, c'est eux. Et on a été inondés de ça. Et donc, tout le monde doit se transformer en Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James et tout ça. Non, à un moment donné, arrêtez vos conneries. Donc maintenant, un nouveau narratif. Le footballeur, c'est un joueur... Non, le footballeur professionnel, c'est un mec comme vous et moi, à l'exception qu'il joue très bien au foot. Point barre. Donc, il a des failles en fonction de son enfance, sa petite enfance. Il a des failles. Et de plutôt il les accepte, plutôt il les reconnaît, plutôt il en parle, plutôt il les soigne, mieux ce sera. Et il sera un meilleur footballeur. Point barre. Et bah, c'est ça que je peux dire. Mais la responsabilité des centres de formation, c'est qu'à 13 ans, t'es pas fini, quoi. Ton mental, il est... Je sais pas, t'as eu des petits-enfants, tu vois, ils ont... Le crâne, il est pas fermé, ça, tu vois. Il se ferme au bout d'un an, je crois, c'est ça. Bref. Et donc, le mental d'un gamin à 13 ans, t'es fragile, quoi, tu vois. Donc tu peux pas entendre dire « Ouais, t'es pas bon, t'es pas ci, t'es pas ça ». Parce que tu le crois après, que t'es pas, you're not enough, t'es pas assez, tu vois.
Alternative Football. Alternative Football.
Des profils qui sont capables de s'en départir et d'avoir la réaction en disant, même, tu vois, moi je t'emmerde, j'ai 13 ans, mais je sais ce que je vaux, t'en as peu, en fait. Tu vois,
13 ans, tu le fais pas. Si à 13 ans tu le fais, on va dire, tu manques de respect.
Alors que peut-être que c'est comme ça que tu te construis, et tu vois, c'est ce que je disais.
Mais ce qui est con, c'est de se construire contre. Tu vois, enfin, je trouve. Après,
tu sors de centre de formation ou pas comme toi, t'arrives dans un grand club qui est le PSG, toi t'arrives frais, les autres sont un peu déjà cramés. T'arrives au PSG, tu as d'un coup une aura, parce que tu deviens joueur professionnel pour un grand club. La relation qu'ont les autres avec toi change, c'est-à-dire qu'on te parle autrement, tu es vu autrement dans la rue, peut-être que ta famille ou des membres de ta famille te parlent autrement, ils vont changer, ils vont plus oser te dire peut-être certaines choses. Comment on apprend ça et comment on gère ça? Enfin, ou est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent là-dessus, ou en fait tu te prends ça en plein dans la gueule parce que tu dois négocier en fait avec des gens qui se transforment alors que toi-même t'as pas changé foncièrement, c'est ton image qui a changé.
Ouais, oui, c'est l'image qui change et donc tu composes. Et après, ce qu'il faut, la diff, c'est que moi, mes parents, ils ont pas trop changé parce qu'ils ont pas trop compris ce que je faisais. Tu vois, c'est à l'époque où il est parti à Paris. Enfin, ils avaient pas Canal à l'époque. Je crois qu'ils ont mis beaucoup de temps avant de l'avoir, donc ils me voyaient pas à la télé. C'est les gens autour qui lui leur disaient. Mes frangins, ils ont été relativement pareils. Tu vois, beaucoup de recul. Donc, j'ai pas trop changé. Pas trop, mais j'ai changé. C'est logique.
C'est normal.
Tu gagnes de l'argent, t'es connu, donc il y a une attitude qui fait que.
Même les mecs qui sont fauchés, ils changent. Hein. C'est, on grandit, on a des gosses. Tu vois, encore une fois, t'as le procès de tu sais, il est célèbre ou il a de l'argent, donc il a changé.
Ouais, mais c'est terrible, c'est les gens qui changent. Attends,
c'est
tu vois.
Ça. Ouais, c'est pas toi qui changes, c'est les gens.
Et donc, du coup, naturellement, comme les gens changent à ton contact, bah, toi, naturellement, tu changes. T'as le sentiment d'être un peu supérieur. Tu vois, parce que tu quand tu rentres dans un resto ou quoi que ce soit, naturellement, et donc. Tu joues un peu les mécaniques, tu roules un peu des mécaniques. Mais ça reste qu'un temps parce que tu dis, mais c'est fou ça quand même, parce que je fais que du foot, quoi. Enfin, que du foot. Je fais du foot. Je ne sauve pas des vies. J'ai toujours ça parce que j'ai des connaissances qui sont, voilà, les cardiologues et tout ça, qui font. Bref. Et eux, c'est chaud, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Moi, je tape dans un ballon, je fais un tacle, voilà, mais tu vois, c'est juste ce deux poids, deux mesures qui m'a toujours très tôt. Permis de garder les pieds sur terre. Mais il y a des gens, non. Parce que pendant 13 ans, on te fait comprendre que t'es footballeur. T'es que footballeur, tu penses qu'au foot. Et si t'arrives à être footballeur professionnel, tu pourras être qui tu veux. Tu seras la personne la plus importante. Mais tu commences à le croire. Et donc, t'agis comme la toute-puissance. Et autour de toi, par contre, les gens, ils agissent comme si t'étais la rosta de ouf, parce que tu les fais croquer, parce que on va plus rien te dire. Donc de l'agent, de l'entourage, voilà. Et donc, t'as le sentiment de toute puissance. Et sauf que tu as 20 joueurs comme ça, dans un effectif. Et sauf que t'as un entraîneur qui doit gérer tout ça.
Ouais, et qui est souvent moins bien payé, parfois, que certains joueurs.
Ça dépend des clubs, maintenant. Ils font attention,
mais c'est fou.
Exactement.
Parce que c'est Franck qui disait ça, donc Franck, le fondateur de Sopress, ça m'avait marqué. Il était passé dans une émission et ça rejoint un peu ton point de vue quand tu en parlais tout à l'heure sur Nicena.
Ouais.
C'est quand même le seul sport ou le seul métier où les ouvriers gagnent plus que le patron, tu vois.
Ouais.
Il va un peu loin quand il dit ça, mais j'aimais bien cette image-là. Mais du coup, quand ton boss est moins bien payé, tu sais, il te parle en tant que boss et il est moins bien payé que toi, se joue dans notre monde capitaliste. Un truc de dire, bah ouais, mais t'es gentil toi, mais tu vaux moins que moi, donc pourquoi tu me parles, quoi.
Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Et donc, sinon, c'est terrible.
Mais le changement de l'entourage ou le changement des gens de manière générale. Moi, je me rappelle notamment Bad, quand il a commencé à faire des groupes au PSG, qu'il était ensuite à Sedan. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué. Ouais, moi c'est un truc qui m'avait choqué.
Qu'est-ce qui t'a, tu l'as vu dans quoi, dans quel
Je l'ai vu dans tout, c'est-à-dire déjà les amis proches qui changent, tu vois, qui commencent à, tu vois, certains, pas tous hein, heureusement, mais certains qui cherchent un peu à profiter un peu plus que les autres, tu vois. Après on va dire que c'est humain, mais tu vois, dans le rapport social, c'est-à-dire que tu sors comme tu sortais avec ton pote avant, et puis là le regard n'est plus le même, tu vois. Et d'ailleurs Bad, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est
Jean-Michel Badian, hein,
pour ceux qui le recul qu'il avait sur ça. Je me souviens d'anecdotes. La principale, c'est que on était jeunes, début des années 2000, on sort, tu vois, nous, on a un pote qui est footballeur, donc on est forcément grisé par le truc. Donc notre grand tour, c'était de dire, bah moi je joue au Grasshopper de Zurich, tu vois, je suis gardien au Grasshopper de Zurich, invérifiable, c'est pas, tu vois, c'était pas les placements, etc. Donc je te raconte ta vie. Mais tu sentais quand même que l'attention était polarisée vers lui, quoi. Et il avait ce grand truc de quand t'avais, tu vois, une fille qui essayait un peu de savoir, ouais, toi, tu fais quoi dans la vie? Et lui, il disait, bah, moi, je suis chauffeur de taxi. tu vois, et à un moment où tu t'attendais à ce que, tu vois,
il se mette en avant
et il avait cette froideur de dire non, mais écoutez, moi je passe une soirée avec mes potes, tu vois, oubliez-moi, et ça c'est quelque chose que par exemple moi j'aurais pas été capable de faire, tu vois, parce que j'aurais sûrement trouvé ça cool d'avoir de l'attention et j'en aurais voulu, donc
mais en même temps c'est très louable de sa part, parce que comme ça il sait si la personne s'intéresse vraiment à lui ou non, quoi.
Ouais, mais c'est difficile.
Ah, c'est super difficile.
C'est difficile de,
mais c'est pour ça que c'est une question qui m'interroge par rapport à Edouard et ce qu'il a pu vivre. C'est dans une interview qu'on avait faite d'Adil Rami, il expliquait à une époque que c'était très difficile pour lui d'accorder de la confiance à une fille. Parce qu'il ne savait pas quelles étaient les intentions derrière. Et si la fille avec qui il sortait, elle l'aimait pour ce qu'il était, ou juste parce qu'il était footballeur. Est-ce que demain, c'est pour ça que finalement, tu te mets aussi avec des stars. Les stars se mettent avec des stars parce qu'ils savent que l'autre personne, tu as un niveau. Donc il s'est mis avec Pamela Anderson. J'imagine que là, il ne se pose pas la question parce que c'était limite lui qui était le mec de Pamela Anderson. Mais à quel point tu deviens du coup méfiant et ça change ton rapport au monde et aux gens, parce que tu te dis dans quelle mesure cette personne-là me parle pour ce que je suis. Pour Edouard ou pour Edouard si c'est le footballeur, quoi.
Moi, je me suis pas posé cette question. Je l'ai rencontré, j'avais 19, 20 ans.
Oui, toi, mais d'autres gens, d'autres gens que ta femme.
Mais je comprends entièrement. Je peux comprendre entièrement.
Est-ce que t'étais plus méfiant? Est-ce que ça te change ton
envers
rapport au monde?
Envers les gens,
de manière générale, est-ce que t'es plus méfiant en devenant connu et footballeur pro que...
C'est toujours pareil. Il faut avoir le relationnel avant. La relation à l'autre, elle se travaille. Si dans un centre de formation, t'es fermé, t'es qu'avec tes potes, t'as pas de relation extérieure, tu sais pas. Tu n'arrives pas à deviner les gens, ok ? Tu penses que les gens, ils viennent parce qu'ils t'aiment bien. Moi, très tôt, j'ai vu que les gens, ils venaient parce que j'étais Edouard Cissé, parce que j'étais un joueur du Paris Saint-Germain. Pas tout le temps, mais tu arrives à les déceler. Tu les vois, les gratteurs, les fameux gratteurs. Et quand tu es à Paris, tu en as plein des gratteurs. Tu le vois. Mais parce que très tôt, j'ai vu ce que ça pouvait être, une vraie amitié avec des potes, hein ? Ou une vraie amitié avec des filles. Donc tu sais pertinemment, les michetots, quand elles viennent, tu sais qui est qui. Mais si tu n'as pas eu cette expérience de l'âge de 13 à 18 ou à 19 ans, bah à 20 ans, tu tombes dans le panneau. Hein. Tu tombes dans le panneau, c'est une expérience à avoir.
T'imagines le recul dont tu as besoin, parce que si on normalise le truc, à 20 ans, tous les mecs de 20 ans du monde, ils ont envie d'attirer les filles comme ça. Ou ils ont envie d'être potes avec le patron de la boîte, ou le patron du resto, etc. Et t'imagines, on te l'amène. Tu vois, qu'est-ce que t'en fais derrière? Comment t'arrives à avoir le recul pour dire ça c'est sain, ça c'est pas sain? C'est ça qui est difficile. Tu vois, c'est d'arriver à...
L'argent et la notoriété rendent beau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a qui en abusent, il y en a qui se servent de ça, et il y en a qui tombent dedans. Et donc foncièrement, il y a plein de... J'ai des connaissances qui sont tombées sur des michetots, on va dire, michetots. Ça me posait pas de problème. Je dis, tu t'amuses. Mais après, tu sais qui est qui. Enfin, tu sais. Et puis, tu apprends 2 ans plus tard qu'ils sont plus que. Ils sont ensemble. Tu dis, ah merde, là, tu vas dans le trou. Là, mais elle a changé. Hein, d'accord, ok. Donc, c'est une expérience à avoir avec autrui. Ça s'acquiert avec le temps, avec la jeunesse. Ça doit s'acquérir très jeune. Comme au centre de formation, il devrait se dire que vous allez.
Vous allez être sollicité.
Vous allez faire gaffe.
Bien sûr.
Est-ce que cette partie-là, désolé, je t'ai coupé.
Non, oui.
Est-ce que cette partie-là d'être célèbre, est-ce que tu y a pas des fois où tu l'as regretté, tu te dis bah en fait j'aurais peut-être préféré une vie plus, même si t'es pas Ronaldinho et t'as pas eu les gens comme tu disais, ils venaient pas forcément au stade pour un Edouard Cissé. Est-ce que tu t'as déjà regretté d'être connu célèbre parce que ça a gâché certains moments, des restaurants en famille, des trucs, des machins où t'as pas été à ce niveau-là pour que finalement tu te dises
J'étais à un bon niveau, mais je j'étais pas fou non plus. Je sais que ça m'a ouvert des portes. Tu sais, quand t'appelles et que le restaurant est full et que tu dis que c'est dommage, c'est pour Edouard 6. Si vous avez une table pour en attente pour Edouard 6, ah ok, pour 4, oh bah d'accord monsieur Cissé. Donc très vite tu comprends que ça peut t'ouvrir des portes, mais après ça m'a pas grisé, mais ça a été utile, je vais pas te mentir, c'est cool quand même d'être connu, reconnu. Et puis après, par contre, là où je remercie Dieu, c'est de pas avoir eu la carrière de, tu vois, le talent de Zidane, moi je fais
après.
Mes courses.
Ça t'appartient plus.
Je fais mes courses.
Tu prends le métro,
je peux aller
dire.
Au ciné, ouais, je vais au ciné, je fais plein de choses avec mes enfants et tout, c'est cool. Titi, par exemple, c'est pas possible.
Ouais.
Titi,
Thierry Henry,
il peut pas. Et même au sein de Prime, on en rigole, on est tous à faire, on peut faire tout ce qu'on veut. Pourtant, on a une belle carrière et tout ça, on est reconnu, on fait des selfies. Titi, il aimerait. Il peut pas aller au resto, tu vois. La dernière fois à Milan, il peut pas, tu vois. Non, non, il a pris son truc, il est rentré directement. Alors qu'on était pas loin. Mais sinon, il y a émeute, ou alors sinon, service de sécurité. T'es prisonnier de ça. Moi, à mon niveau, j'ai eu le bon dosage. Franchement, j'ai eu le bon dosage. Et ça m'a permis de faire des choses avec ma famille, d'aller à certains défilés. Alors, je suis pas très mode, mais juste pour connaître l'expérience, tu vois. C'était super. Voilà. Donc, que des bons côtés. Là, c'est cool. Là où tu te dis, ouais, quand même, ça a du bon de se faire siffler de temps en temps.
Mais, se faire siffler par Mathieu au parc.
Mais voilà, après, c'est comme c'est une drogue. Il y en a qui aiment trop la lumière.
Tu l'as déjà sifflé ou pas?
Ouais, c'est certain.
Voilà,
c'est
sûr.
Bien
sûr.
Il est honnête.
Bien sûr.
Très souvent, quand je vois les mecs, je suis supporter du PSG, t'as dû me siffler, toi. Tu sais, parce que je provoque les gens.
Je les ai tous sifflés.
Mais c'est sûr. Et tu sais.
C'était une époque où c'est tout ce qui nous restait de siffler, hein, je te le rappelle.
Et quoique, en ce moment, c'est pareil, parce que vous gagnez pas beaucoup.
Non, t'es dur. Mais tu m'as fait chier à Milan pendant 90 minutes.
Je provoque à chaque fois les gens pour voir ce qu'ils vont. Oh non, non, toi, je te sifflais pas. Ouais, franchement, super. Ok. Non, mais. Ça fait partie, tu sais, t'es joueur professionnel.
Il a joué à Marseille, donc j'ai forcément beaucoup sifflé quand il a joué à Marseille.
Il y a des choses que tu dois accepter. Être sifflé quand t'es pas bon, ok. Ça fait partie du jeu, tu vois. T'as fini ton match, t'as pas été bon, tu siffles. Mais à un moment donné, il y a un autre match et on rabat les cartes. Si vous continuez à rester dans ce truc, c'est compliqué. Et donc, du coup, ça demande une force mentale encore plus forte. Et si, donc t'as fait pendant centre de formation, si t'as pas... un point de vue familial, t'as pas une femme, une famille stable. Franchement, tu te fais siffler en plus au stade continuellement. Et ils sont où les ressorts? Ben, tu vois, ça devient très compliqué. Et donc, tu tombes dans les excès. Peut-être l'alcool, ça peut être les paris, le poker. Le poker aussi, il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. Et puis après, voilà, tu tombes dans un truc, tu dérives, tu t'éloignes de ton cœur de métier, quoi. Tu t'éloignes du foot, mais tu gagnes toujours de l'argent et cet argent, tu le perds. J'étais effaré de me rendre compte que les joueurs italiens, ils pariaient. Il y a le gamin là de la Juve qui a 20 ans, il a 3 millions de dettes déjà. Ouais. 3 millions d'euros de dettes. À 20 ans, 21 ans. Bon, ils sont cool, la Juve, ils ont prolongé. Mais il y a beaucoup de joueurs italiens qui
jouent. Non, mais t'as eu l'affaire récemment avec Tonali et...
Oui, oui, c'est eux, là, c'est ça. Et donc, je me dis, mais putain, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va pas? Tu joues à la Juve, enfin, qu'est-ce qui va pas? Et là, s'il se pose, si tu l'autorises à parler, c'est trop dur. C'est pas grave, c'est trop dur.
Il y a une question qui me vient... par rapport à ton expérience qui est particulière, et d'ailleurs ça résonne, je repense à ce que je disais tout à l'heure sur tu vois, Q, Seb et Ricky, parce qu'ils ont un peu le même profil sur ce côté-là. À quel point trouver ton âme sœur tôt, fonder une famille plus ou moins tôt, en tout cas avoir cet équilibre familial tôt, ça te permet derrière d'être plus stable?
Non, ça permet pas. J'en parlais très, très, il y a très peu de temps avec ma fille aînée qui a 21 ans, je n'y fais pas comme papa et maman. Ouais. On n'est pas un exemple. Il faut surtout pas nous suivre. On était des exceptions. J'ai rencontré ma femme, j'avais 20 ans, 19 ans. Je suis sorti vraiment avec elle à 20 ans. Et on est des exceptions. C'est particulier. On a des parcours de vie. Elle a perdu son papa. Ça nous a renforcé. C'est ma meilleure amie. C'est particulier. Je conseille pas à tous les joueurs de dire il faut se mettre
faut
avec
se poser,
une
d'accord.
de 20 ans.
Oui.
Et toujours pareil. J'ai pas fait de centre de formation. Donc moi, je suis passé. C'est celle qui compte le plus dans ma vie, mais j'ai rencontré des filles auparavant.
Oui,
tu as
vécu avant.
J'ai vécu. Quand tu as 19 ans, tu n'as pas vécu non plus comme de ouf, mais tu as quand même un peu vécu. Je conseillerais à personne de se mettre, mets-toi à 20 ans, trouve la bonne et marie-toi. Franchement, je dis à ma fille, c'est facile de dire maintenant que maman, c'était l'unique, c'était la 25 ans après. Mais à 20 ans, on y est allé un peu comme ça. Hein. Et on a vu au fur et à mesure.
Ouais, t'es une exception, hein, parce que quand tu vois le nombre de footballeurs qui arrivent au PSG ou qui arrivent dans un grand club avec leurs copines du lycée ou de l'époque et qui se retrouvent après avec des mannequins, mais à quel point, alors tout dépend de chacun de quel milieu on vient, mais à quel point c'est déroutant de s'extraire de son milieu ou de devenir un transfuge de classe. Je sais pas si ça a été ton cas, mais à quel point ça peut être déroutant.
C'est très clair, oui, ça a été mon cas. Moi, j'avais pas d'argent étant jeune, et donc c'est ce qui m'a permis à 18-19 ans d'être encore plus sérieux dans le foot. Pourquoi ? Parce que tu gagnes que dalle, t'as très peu d'argent, t'arrives à 19 ans au Paris Saint-Germain, tu te rends compte que tu peux gagner énormément d'argent. Dans un premier temps, mon premier salaire était très faible parce que je venais d'arriver. Par contre, je fais le match de Coupe d'Europe contre le Steaua Bucarest. Mm-hmm. Et ne serait-ce que je fais un des deux matchs.
Okay. 5-1, deuxième.
Le premier match je fais, on perd...
Okay. Sur tapis vert pour le fax, le fameux fax de Laurent Fournier qui est tombé derrière le...
On perd 3-2 là-bas, mais sur tapis vert, on perd 3-0. Bref, je vais au jeu de... Bref, le deuxième match, je ne le fais pas, mais on se qualifie. Et donc, le mois de septembre, il y a ma fiche de paye le mois de septembre, j'ai la prime. Et quand tu vois que tu as gagné l'équivalent de 2 ans de tes salaires sur un match, là, tu dis, ouais, là, je pense que je vais m'accrocher.
Ouais, c'est bien comme métier.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu acceptes plus facilement... Ben, que ce soit dur, d'être parfois critiqué, que tu joues pas tout le temps, d'être loin de tes parents. Parce que si je me tourne, j'ai pas grand-chose, quoi. Enfin, si, j'ai mes parents, locataires, dans un HLM. Ouais, il y a pire, hein, mais il y a mieux. Et donc, je me dis, non, je regarde devant. C'est ça qui m'a permis. Et donc, moi, je dis, c'est un ascenseur social. Et c'est pour ça que je respecterai toujours le football. Quand j'entends les gens qui me parlent, c'est que du foot, je fais toujours attention. Non, c'est du foot. Professionnel, c'est du foot. C'est-à-dire que tu peux vraiment aider ta famille, t'aider aussi et sortir de cette condition qui est très difficile. Tu mets 80 ans pour sortir de ta condition sociale. Grâce au foot, bam, maintenant c'est une orbite. T'es une fusée maintenant. Tu vois, maintenant avec les salaires qu'il y a. Donc, non, moi ça m'a fait du bien, c'est bien. Et puis après, tu as des nouveaux codes. Et donc ça aussi, ça te permet de...
Mais c'est pas compliqué ces nouveaux codes à appréhender? Ou à avoir vis-à-vis de, bah, quand tu reviens dans ta famille, tu reprends tes anciens codes, ou les codes changent, et avec les gens avec lesquels tu évolues, des nouveaux codes, quoi.
Est-ce que tu pourrais revenir chez tes parents, toi? C'est toujours compliqué, peu importe le niveau social,
c'est
chiant parce que c'est les habitudes. C'est vrai ou pas?
C'est toujours, compliqué, bien sûr.
Mais effectivement, moi, la première fois que je suis redescendu, c'était pas évident, parce que tu vois, ça a été un choc. 6 mois plus tard, je suis revenu, et j'ai vu ma chambre avec mon petit bureau fait de briques et de brocs. Je me dis, waouh, j'étais là, moi.
Ouais. Enfin, j'ai
bossais là en 6 mois, tu vois. Parce qu'en 6 mois, j'avais vu des choses, des belles choses. J'avais vu Paris déjà, j'avais jamais vu Paris. Paris, les immeubles haussmanniens, les beaux restos, les belles meufs, tu vois, tout. Je me dis, waouh. Et quand je suis redescendu à Pau, je me suis dit, mais on est en quelle année, là? On est en 98, tu vois. Et ça a été ça, mais ça m'a permis d'avoir ce côté j'ai envie de plus, sans oublier qu'il y a ça aussi. Et donc ça m'a toujours permis de garder les pieds sur terre. Peut-être trop, j'aurais aimé, avec le recul, non, je vais pas péter les plombs, je m'en fous, non. Mais tu vois, mais ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Mais oui, ça m'a, le fait de pas avoir eu d'argent, ça m'a permis de continuer, quoi.
T'as pété les plombs une fois, je crois, c'est la Porsche, c'est tout, c'est le seul truc où t'as pété les plombs. Tu nous as raconté une fois, je crois, en antenne, que c'est la seule folie que tu t'es permis, je crois.
Non, il y a eu, j'ai eu des voitures de sport, mais après c'était pas convenable. T'as deux enfants, tu peux pas aller les chercher parce que.
Donc finalement, t'as pas eu
les mettre dans le coffre.
C'est naze. Mais ça c'est ça va, c'est tranquille.
Oui, c'est
quoi.
Ça. Mais quand tu dis, je regrette, j'aurais pu faire plus d'excès.
Non, c'est pas dans ça. C'est-à-dire me prendre moins au sérieux, tu vois. Tu parlais d'image. Mon père, il m'a toujours dit, voilà, la réputation, c'est ce que tu as le plus cher. Donc j'ai toujours fait attention, et encore plus. Comme j'étais joueur professionnel, donc faire attention à pas porter atteinte au nom Cissé, tu vois. Mon papa, il a toujours fait low profile, donc le fait que je sois médiatisé, donc c'était terrible. Faire attention, pareil par rapport au PSG, donc quand je sortais, je faisais attention à me contenir. C'est pas que je sortais pas, mais quand j'allais en boîte, voilà, je mettais pas yalla, quoi. Je faisais toujours attention, un peu lâcher prise, tu vois. Je me suis jamais autorisé à faire le fou et prétexter que j'étais jeune, quoi. Je vais peut-être le faire maintenant, tu vois. Mais non, mais voilà, donc, juste par rapport à tout ça. Mais sinon, oui, j'ai vécu quand même.
Quand vous avez mené votre carrière, en oubliant votre identité de personne, vous n'êtes plus qu'un joueur, d'accord? Mais quand, justement, vous arrêtez de jouer, qui êtes-vous? C'est qui, cette personne?
Donc, on va finir par l'après-carrière, la petite mort. Ouais. On en a commencé à en parler au début.
C'est qui parlait? Et a parlé à qui, un joueur?
Donc, c'est Cécile Traverse. Ouais. C'est dans le documentaire Des Silences.
Mais c'est qui, le joueur?
Elle parle pas à un joueur.
Ah,
elle parle des joueurs.
Ah ouais,
voilà.
Okay.
Elle est docteur d'université en psychologie du sport. Donc, Cécile Traverse, tu fais bien de, parce que j'ai pas dit qui c'était.
Il a les bons réflexes du podcasteur. Donc, c'est contextualisation.
Ouais. Et du coup, elle parlait du fait que, on t'identifie, enfin, tu es joueur. Tu n'es rien d'autre. Et c'est un peu ce qu'on disait pendant toute l'émission, à savoir que le centre de formation, te martèle que tu es juste un joueur de foot et que ça.
Il va vraiment falloir qu'on fasse cet épisode sur les centres de formation.
Ouais, on va le faire, on va le faire. Mais du coup, est-ce que toi, donc peut-être que non, mais sûrement que non, parce que tu n'étais pas, tu n'étais pas juste Edouard Cité le footballeur, mais comment tu as vécu cette petite mort, comme on l'appelle, et qui finalement dans le reportage Silence je tombe que je conseille de regarder, qui est sorti sur Beansport, la plupart des cas, c'était des cas de l'après-carrière, où ils tombent en dépression.
C'était Robert Pires, Damien Perkis,
mais c'est une blessure.
Johan Cardinal, non?
Et Guillou, et Johan Cardinal, ouais. Johan Cardinal, c'est pendant sa carrière, et puis après, Stéphane Dalmat, c'était dans son après-carrière, dans le vestiaire où il en parle. Toi, comment tu l'as vécu? Et voilà.
L'arrêt de ta carrière, il y a deux façons de la voir. Soit c'est toi qui mets un terme à ta carrière, ou soit tu l'as subi. Beaucoup plus difficile quand tu l'as subi, comme Damien, une blessure, ou alors tu veux continuer, mais il n'y a aucune offre qui arrive à toi, donc là c'est terrible. Moi, je l'ai, franchement, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Il me restait une année de contrat à Auxerre. J'ai dit au mois d'août, là, la reprise, non, c'est en juillet, non, je ne viens pas. Non, je n'avais plus envie du tout de jouer. J'avais plus de gaz, tu vois. Et plutôt que de faire semblant de cachetonner la dernière année, j'ai dit non, je ne peux plus. Je ne veux plus, donc j'ai arrêté. Et donc, cette petite mort, pour moi, j'aime à dire, c'est pas une petite mort, c'est une nouvelle vie. Parce que je me projette sur ma nouvelle vie. Donc, j'ai vu tous les bons côtés. Et un truc tout con, j'aime à le raconter. Donc, en juillet, j'ai pas fait de préparation. Je dis à Auxerre que je ne vais pas reprendre, que je casse mon contrat. Et donc, je pars avec ma femme et mes enfants à la boule. On est le 13 juillet. J'arrive et le lendemain, je fais le 14 juillet sur la plage, avec plein de monde, et je vois mes enfants jouer avec d'autres enfants. Dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, c'est ça les vacances? J'avais jamais passé des vacances en juillet. J'ai kiffé. Donc je continue, juillet, on fait août, ouais, j'adorais. Et donc après, ça a basculé. Après, ce qui est un petit peu difficile, c'est pas le manque d'activité, c'est retrouver, ce qui a été dur pour moi, c'est retrouver ma place au sein même de ma famille. Parce que ma femme a été habituée seule avec les enfants à gérer. Ouais.
Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi?
Et elle m'a dit, grosso modo, elle me dit, attends, pendant 15 ans, on a fonctionné comme ça, c'est bien passé. Maintenant, gagne ta place, mec. Gagne ta place. Tu sais pas, là, t'arrives et tu vas tout révolutionner. Prouve et on verra. Et donc, pendant 6 mois, ouais, ça a été un peu... ça n'a pas été évident. Et puis après, ça a basculé. Donc, c'est ma nouvelle vie. Et donc, très vite, c'est pour ça que quand tu me parles de ton ancienne vie, c'est pas que j'ai fait un deuil, mais ouais, c'était génial. C'est autre chose. Maintenant, je suis ça. Et donc, je suis très heureux. Et donc, quand tu me parles de foot, de prime abord, j'ai pas souvent les souvenirs. Par contre, quand ça vient, ouais, j'en parle, je suis heureux. Après, j'arrête, on passe à autre chose, on va parler d'autre chose, tu vois.
Je pense que tu as dit un truc qui est clé. Et pour le coup, je refais mon parallèle entre le foot et tout un chacun et la vie de tout le monde, c'est le côté de pas subir. Tu vois, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui avec le côté violent de la surexposition, tout ça qui est vécu, il faut aussi se préparer à la transition et à plus le vivre. Et il faut être acteur du truc. Et plus tu l'anticipes, et c'est pour ça, tu vois, t'as dit un truc hyper intéressant en début de podcast, c'est suffisamment rare pour être
souligné. T'as raison, mais tu
veux dire. T'as dit, je me concentre pas sur le terrain, en fait. Il y a le terrain, je le fais bien quand je le fais, mais en dehors de ça, j'ai besoin de placer mes pions. Et encore une fois, pour avoir vu, moi, des potes arrêtés, plus ou moins subis d'ailleurs, c'est peut-être des mecs qu'on recevra, donc on aura l'occasion d'en parler, mais tu vois, moi, il y a un mec qui m'a scié sur la préparation de son après-carrière depuis un an, c'est Ricky.
Ricardo Fati.
Ouais, Ricardo Fati. Ricky, tu vois, on a... il a fait une dernière saison l'année dernière... Et puis là, il s'est dit, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de voir l'horizon. Le champ des possibles, c'est quoi? C'est de passer mon BEF, ok. Se rapprocher d'un club, il passe son BEF. Appliquer au MIP à l'UFA, qui est le programme de l'UFA que tu connais, Edouard, pour les échangeurs professionnels. Il se prépare à ça. Tu vois, on était à Rome, Leverkusen Rome. Il y a Seferin qui est là. Il va choper Seferin, il se présente, il fait la démarche. À côté de ça, il est aussi consultant sur Prime. Et en fait, après, je suis sûr qu'on aura l'occasion de parler avec Ricky, il vous en parlera en direct, il est bien mieux placé que moi, mais j'ai à aucun moment l'impression d'être en face d'un mec qui subit quoi que ce soit. Tu vois? Ok, il y a eu une page foot qui a duré longtemps, il a joué dans 8 pays, je crois, il a tranquillement préparé la sortie, et aujourd'hui, tu vois, il fait d'autres choses, et il fait plein de choses, et il est
marié.
Ouais, mais c'est pour ça que je te disais.
Il est marié, il a des enfants.
Mais c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure sur.
Tu switches facilement.
Ma question, tu vois, ma question sur la situation familiale. Je te parlais de tu vois, de notamment de Ricky et aussi de Seb Bassong et de Quentin tout à l'heure, parce que ils ont fait un super épisode sur ça d'ailleurs, sur avec leurs enfants, sur la famille et l'importance de la famille, le rôle de la famille dans la carrière du footballeur. Je vous invite à particulièrement écouter celui-là. C'est aussi des gens qui ont construit leur couple et leur famille relativement tôt. Et qui ont construit pour le coup, en plus du projet carrière et football, un projet familial. Et ma question n'était pas anodine, c'est je pense que d'avoir ce socle là, ça te permet ça aussi à cette transition là.
Ça peut aider.
Ça t'aide, pardon, ça permet.
Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans le foot, j'ai l'impression qu'on demande, dans le sport de haut niveau, je veux dire, mais on demande de sacrifier ta vie personnelle, donc familiale, pour ta vie professionnelle. Et donc on demande de choisir. C'est soit ça ou ça. Moi, j'ai jamais voulu faire ce sacrifice. Ce sera ma carrière de footballeur professionnel et ma vie de famille. Donc, quand j'ai arrêté, j'étais relativement fier. Je me suis retourné sur ma vie professionnelle. Je me suis dit, ouais, j'ai joué dans des bons clubs. J'ai gagné des titres. Ouais, il y a toujours des gens qui disent, t'as pas été en équipe de France. Est-ce que c'est une peine? Non, il y avait meilleur que moi. Donc ça aide aussi. Parce que s'ils avaient été tous nuls, et c'était terrible. Ils avaient meilleurs que moi, point barre. Et vie familiale, bah là, marié, trois enfants, tu vois. Ça, c'est cool. J'ai plein de potes, grosse carrière. Mais à un moment donné, il y a eu un choix à faire. Ils ont peut-être privilégié un peu trop leur carrière au détriment de leur vie de famille. Divorce. Et puis du coup, ils 35, 36, 37 ans, ils continuent à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls chez eux, tu vois. Et je ne les juge pas. Je dis juste que tu m'as posé la question. Moi, franchement, à 34 ans, j'avais ma femme et trois enfants. J'avais fait ma carrière et j'étais relativement content. Et donc, c'est une nouvelle vie et j'en ai profité. C'est pas le cas de tout le monde. Mais peut-être parce que j'ai pas fait le centre de formation, je ne me suis pas considéré seulement comme un footballeur professionnel.
Tu vois, sans te jeter des fleurs à toi ou jeter des fleurs au concept, c'est important, tu vois, là, ce que tu as partagé aujourd'hui. De la même manière que, on va dire que je fais de la promo pour mes potes, mais c'est, je trouve ça hyper important ce que font les gars sur Ballon Main Corps, parce que c'est un fantasme, le métier de footballeur. Il y a plein de questions, il y a plein de choses que les gens ont besoin de savoir pour mieux le comprendre, pour le juger différemment. Et ce qu'on a évoqué aujourd'hui, assainir un petit peu l'approche globale des gens, que les gens ont du football ou du footballeur, ça passera par ce type de partage et de témoignage. Et comme le footballeur, tu l'as dit tout à l'heure, est formaté à donner très peu, en tout cas être très neutre dans ce qu'il partage, parfois les gens n'ont pas la compréhension, les outils pour avoir une vision différente et évoluer. Et plus tu as des footballeurs en activité ou d'anciens footballeurs qui prendront le temps de partager, d'être honnête, parce que tu vois, tu n'as pas des positions qui sont toujours faciles à défendre, qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres, et tu vois, tu peux aussi te prendre ton retour de bâton parce que tu as dit un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Je pense que c'est hyper utile. Et je pense que tu vois, la discussion qu'on a eue aujourd'hui, elle est hyper utile.
Mais ça, moi, je trouve que c'est la base. Et c'est pour ça que je te parle souvent de narratif, un nouveau narratif, le narratif où on est tous pareils, on doit tous penser pareil. Il est obsolète. Sinon, il y aurait que des champions, il y aurait que des Cristiano Ronaldo, il y aurait que des Ronaldo, il y aurait que des Pep Guardiola. Et c'est pas le cas. Donc, il faut changer quelque chose. Et on est tous uniques. Et pour avoir fréquenté beaucoup de vestiaires, il y a plein de mes potes qui sont super intéressants. Ils ont des histoires de fou, tous. Et je les encourage tous à en parler, parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour devenir professionnel, il y a plusieurs. Ouais. En tout cas, si on pense qu'il n'y a qu'un seul moyen, il faut le repenser.
Ok, donc il n'y a pas qu'un ballon dans la tête d'un footballeur, c'est ça qu'on doit conclure.
Exactement, il ne doit pas y avoir que le ballon.
Merci monsieur.
Merci à vous.
Allez, à bientôt.
À vite.
Très vite.
Ciao, ciao. Salut.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.